la controverse née à la suite de la convocation de sa session extraordinaire, le Sénat a voté ce mardi le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections locales et municipales. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Jacques Joly, sénateur de l'opposition et cadre du MLC. Il est vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Bonsoir professeur.
Bonsoir Alain.
Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Bonsoir, monsieur Bonceau.
Bonsoir, monsieur Alain.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est le sénateur Tekis Moulaïla, sénateur de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La deuxième session extraordinaire ouverte ce mardi à la Chambre haute du Parlement a été clôturée quelques minutes après. Cette session convoquée par le président du Sénat, Léon Kengouadondo, et la moitié des sénateurs avaient pour mission de statuer sur la loi portant répartition des sièges dans les circonscriptions électorales pour les élections locales, municipales et urbaines. Une loi pourtant rejetée à la première session extraordinaire le 31 juillet dernier par le même Sénat. Richard Junior Kamunga pour les détails.
Comme mentionné, cette session avait un seul et unique ordre du jour, l'examen et l'adoption de la loi portant répartition des sièges dans les circonscriptions électorales pour les élections locales, municipales et urbaines déjà adoptées par la Chambre basse du Parlement au mois de juillet dernier. Sans débat, les sénateurs ont adopté à l'unanimité dans une session qualifiée de spectaculaire par certains sénateurs, puisqu'elle n'a duré que 35 minutes 20 secondes. Les résultats de ce vote par le président du Sénat, Léon Kengouadondo.
C'est 108 membres qui composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote, 77 membres ont voté oui, on a voté non, aucun ne s'est abstenu.
L'absence des sénateurs de l'opposition a été remarquable dans la salle. Le rapporteur adjoint du Sénat, Lola Kisanga, explique.
Non seulement que des sénateurs de l'opposition ont signé la requête, pas tous évidemment, la requête de la demande de la convocation de la présente session extraordinaire dans la salle, d'autres de l'opposition étaient là et ont pris part au vote. Pas tous évidemment, comme aussi d'autres de la majorité n'étaient pas dans la salle.
Les sénateurs reprendront le chemin de l'hémicycle le 15 septembre 2015 prochain pour la session du DT.
Merci Richard Junior Kamunga. Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du MLC et également vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Professeur, comment vous analysez ce vote du Sénat?
Merci beaucoup. Je crois que le vote du Sénat ou la séance ou la session, votre collègue l'a qualifié de spectaculaire.
Disons que c'est certains sénateurs, selon certains sénateurs.
Voilà, donc ça montre déjà un certain nombre d'indications. Par ailleurs, c'est une session extraordinaire, je crois que c'est l'une des sessions les plus courtes de l'histoire du parlementarisme.
30 au
minutes.
Monde.
Au monde, ça fait 30 minutes. Ça démontre qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être précisées.
Entre autres.
Notamment, nous avons écrit au président du Sénat, en tant que sénateur membre du groupe de l'opposition, pour attirer son attention sur un certain nombre des incohérences, notamment les impératifs tels que le non-respect de la Constitution, le non-respect de notre règlement intérieur, les violations de la loi de la République, le non-respect des exigences techniques, et même de l'institution parlementaire. Nous avons pris acte du vote qui a été émis, mais il s'agit donc des actes de banalisation de la vie parlementaire, et il faudra que nous tous nous puissions assumer la responsabilité dans la prise des décisions d'un processus électoral qui doit se faire avec le plus grand sérieux du monde, qui doit se faire dans le plus grand respect des règles de droit et notamment de notre Constitution.
Alors, professeur, quand vous dites qu'il y a des incohérences que vous avez signifiées au président du Sénat dans votre correspondance, vous parlez notamment du non-respect du règlement intérieur et ainsi que de la Constitution. Dans les détails, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Mais l'activité parlementaire est réglée par notre Constitution. La convocation d'une session parlementaire est régie par l'article 116 de la Constitution, en ce qui concerne la session extraordinaire. Elle est convoquée sur un ordre du jour précis et pour un temps déterminé. Lorsque vous avez vidé la matière, eh bien la session prend fin. C'est ce qui est arrivé. On nous a convoqué une session extraordinaire. Il y avait trois matières qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Nous les avons vidées, ces trois matières. Donc, la session extraordinaire est terminée. Mais, à la rigueur, si on estime qu'il y avait une loi qui n'était pas votée ou qu'il y a une matière qui est restée non vidée, eh bien, c'est le règlement intérieur maintenant qui l'est dit.
À l'article 75.
Très clairement.
Le règlement intérieur du Sénat.
Et à l'article 54 de l'Assemblée nationale. Donc, lorsqu'une matière est restée en suspens, elle est renvoyée comme matière prioritaire au cours de la session ordinaire, comme a relié le législatif. Donc, si nous faisons une lecture holistique de la Constitution et du règlement intérieur qui complète la Constitution, on ne peut pas convoquer la session extraordinaire de cette manière cavalière pour arriver à ces résultats spectaculaires. Donc, c'est déjà ça. Alors, au-delà de cela...
Donc, en d'autres termes, pour les auditeurs qui nous suivent, cette session n'avait pas sa raison d'être.
C'est une session qui est convoquée en violation de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat.
Alors, professeur, comment vous expliquez, selon vous, l'absence de la plupart des sénateurs de l'opposition?
Mais non, mais les sénateurs de l'opposition ne peuvent pas prendre à une séance ou à une session irrégulière. On ne peut pas cautionner cette forme de tragicomédie.
Mais on a suivi tout à l'heure le sénateur Lola Kisanga dire qu'il y en a même parmi ceux de l'opposition qui ont signé la requête pour la convocation de cette session extraordinaire.
Je ne savais pas que l'honorable Lola Kisanga était le rapporteur de l'opposition parlementaire au Sénat.
Alors, professeur, de votre point de vue, il y a certains observateurs qui pensent que le Sénat a cédé à la pression politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Mais il faut demander à ceux qui s'y sont rendus. Mais en tout cas, moi, j'ai reçu un SMS. J'ai appris qu'on nous a convoqués. J'ai estimé que c'était de nul effet. Donc, je ne suis pas allé.
Alors, selon vous, quelles pourraient être les conséquences qui peuvent suivre l'adoption de cette loi au Parlement?
Mais je vous dis que ce qui a été fait en violation de la loi, probablement que certaines personnes pourront saisir la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est important pour moi, je parle ici en tant qu'ancien vice-président de la CENI, la législation en matière électorale ne doit pas être prise à la légère et dans la précipitation. Les lois électorales concernant les élections sont le seul loi de la République qui exige les sérieux. D'abord, cette loi n'est même pas une loi. C'est une annexe. Et l'annexe, la loi électorale dit que cette annexe-là fait partie de la loi électorale. Donc, fabriquer une loi de toute pièce, un objet juridique non identifié, pour voter cette loi, cette prétendue loi, c'était déjà une incohérence grave. Deuxièmement, si vous prenez ces annexes, en fait, il s'agit, n'est-ce pas, du fichier électoral qui pose problème. Encore une fois, je parle en toute responsabilité. Lorsqu'un fichier électoral n'est pas inclusif, présente des incohérences, et un fichier qui nous a déjà posé des problèmes depuis 2006, en 2012, avec énormément d'omis, énormément de listes et de dérogations, et que cette liste électorale a généré un contentieux, et qu'aujourd'hui, l'audit du fichier électoral n'est pas terminé. Nous allons aller à une élection où la CENI va présenter deux fichiers. Pour les élections provinciales, un fichier de 32 millions d'électeurs, et pour les élections locales et municipales, un fichier de 30 millions. Donc, il y a un électorat flottant de plus ou moins 2 millions d'électeurs.
Qui n'est pas pris en compte.
Alors, comment on va faire? Ça, c'est de 1. De 2,
très rapidement,
nous avons une question fondamentale. L'enrôlement de nouveaux majeurs, conformément à la Constitution. Nous tous, nous sommes d'accord, y compris les chefs de l'État, qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs. Maintenant, on nous présente dans la précipitation, nous nous posons la question, finalement, qu'est-ce que nous voulons?
Merci, professeur. Honorable Tekis Moulaïla, bonsoir. Vous êtes sénateur de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Comment vous analysez ce vote du Sénat aujourd'hui?
Ce vote de Sénat, c'est une réalisation positive de la mission du Sénat par rapport à ce que moi je vais appeler par rapport au processus électoral et spécialement en matière d'arsenal juridique qui doit permettre à ce que notre pays, qui doit permettre à ce que les politiques et les politiciens puissent réellement avoir assez d'instruments juridiques qui permettent à ce que les élections se déroulent dans des conditions très apaisées. Et le vote réalisé aujourd'hui, c'est une réponse à l'opposition réelle et démocratique. L'opposition a demandé que l'on n'ose pas aller aux élections provinciales ou même présidentielles ou autres sans qu'on ait des dispositions réelles et surtout juridiques pour l'organisation des élections locales, urbaines, municipales et urbaines. Et je préfère vous dire, le Sénat vient aujourd'hui de répondre à la volonté du peuple congolais. Comme venait de le dire l'honorable Ndjoli, non seulement la volonté du peuple congolais, mais aussi la volonté du chef de l'État, qui veut que les élections se passent et se réalisent en respectant des dispositions légales et conformément aux dispositions légales qui sont déjà en train d'être mises en place. Aujourd'hui, si le Sénat, à la demande de 72, je dirais 2/3, de membres du Sénat, si ces sénateurs ont demandé cette session extraordinaire, c'est parce que il y a eu un vote insuffisant par rapport à cette loi qui est très importante dans le processus. Messieurs, laissez-moi terminer.
C'est vous qui avez la parole, honorable Moulaïla. Vous parlez d'un vote insuffisant lors de la première session extraordinaire, mais qu'est-ce qui n'avait pas marché? Pourquoi le Sénat, si cette question était aussi importante, ne l'avait pas vidée en ce temps-là?
Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Il fallait qu'il y ait au moins, en fait, selon les éléments légaux, il fallait qu'il y ait 72 sénateurs présents dans la salle, une plénière convoquée à 10h, 14h, 15h, 16h, tout simplement parce qu'il y avait une loi aussi importante qui était en discussion au niveau de la commission paritaire. Et mon collègue Ndjoli, professeur, comme vous l'appelez, puisqu'il l'est, a été membre de cette commission paritaire. Et cette commission paritaire ne présentera ses données, ses résultats, de conformité qu'à 19h55. Et il se fera que, au Sénat, la plénière étant programmée à 20h, le bureau s'est présenté pour les élections. Je préfère vous dire, à cette heure-là, au lieu de tous les sénateurs qui étaient présents, il n'y en avait que 62. Et de ces 62, la majorité vouée à la volonté du peuple et à l'organisation régulière des élections sur base des instruments juridiques présentés par les différentes structures concernées, techniquement par la CENI et légalement par le gouvernement, 48 sénateurs présents ont voté oui, 13 ont voté abstention, 2 ont voté ce qu'ils ont voté. Bon, mon collègue était de ceux qui avaient voté soit abstention, soit...
Laissez-moi terminer.
J'ai surveillé le monde.
Allez-y, sénateur. Alors, c'est moi qui accorde la parole. Soyez à l'aise.
Non, soyez aussi à l'aise et écoutez-moi. Alors, il y a eu ce vote, mais étant donné que le Sénat n'avait pas rejeté, et c'était à la séance subséquente, étant donné que le Sénat n'avait pas rejeté et que le Sénat n'avait pas renvoyé cette loi ni au gouvernement ni à l'Assemblée nationale, et il n'y a pas eu, je voulais parler de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu une commission paritaire, il est arrivé aussi que les sénateurs se ressaisissent pour l'intérêt supérieur.
Ne pouvait-elle pas attendre la session ordinaire?
Non, monsieur, il y a une urgence. Il y a une urgence. Dans un pays démocratiquement organisé, sur base d'une gouvernance sérieuse, il ne faut pas trop retarder les choses. Il a fallu que cette loi soit votée par le Parlement, envoyée pour promulgation, et qui en sait les implications budgétaires. En septembre, nous discutons les prévisions budgétaires.
Le professeur Ndjoli a dit que c'était en violation de votre règlement intérieur.
Écoutez, professeur Ndjoli, il est constitutionnaliste, c'est lui qui est venu présenter cette loi. Il est aussi constitutionnaliste, c'est comme lui, ils vont discuter de cette donnée à leur faculté. Ici, je vous parle du développement réel et pratique.
Et donc, pour vous, il y avait urgence.
Il y avait urgence, et il y a urgence, et les sénateurs ont répondu à la volonté du peuple congolais, pas à la volonté des théoriciens juristes ou à la volonté d'un groupe quelconque politique ou politicien soit-il. Monsieur le journaliste,
Sénat n'a pas cédé à la pression comme
le Sénat n'a pas cédé à la pression. Le Sénat, pour preuve, pourquoi il n'y a pas eu pression quand il y avait 62 l'honorable Ndjoli, sénateur de tout le temps, on a été élu avec lui au même moment, il connaît quand il y a pression ce qui se passe. Alors, pour les 62, la pression serait d'ailleurs mieux réussie que sur les 77 qui sont présentés aujourd'hui, auxquels on retrouve non seulement les sénateurs de la majorité présidentielle, puisqu'on veut y accorder beaucoup trop d'importance des tendances politiques, mais il y avait aussi des opposants durs, purs et des opposants capables d'écouter le peuple. Ceux qui ne se sont pas présentés à cette séance, ces opposants qui ont de bonnes théories juridiques, ils ne veulent pas aller aux élections et ils ne veulent pas que le peuple juste de leurs droits démocratiques.
Voilà, le professeur Ndjoli n'était pas là, on lui donnera l'occasion de répondre tout à l'heure. Jérôme Bonsoir, vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, également coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées. Vous avez suivi les honorables sénateurs. Comment vous analysez ce vote du Sénat?
Merci, cher Alain. Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer à ma gauche honorable sénateur professeur Jacques Ndjoli et à ma droite honorable Tekie Moulaïla. Je suis heureux et content d'être encadré par les honorables. La question que vous posez, même le thème de notre émission, du débat dialogue entre Congolais, porte sur l'adoption de la loi portant répartition de sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. Mais c'est une matière qui relève de la programmation contenue dans le calendrier électoral global présenté en date du 12 février 2015 par la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette présentation, la CENI, il y avait 23 contraintes extérieures liées à l'organisation des élections. Mais ici, à notre niveau, au niveau en tant que technicien, nous avons répertorié 11 contraintes liées à l'organisation locale, urbaine et municipale. Et cette question fait partie des opérations qui étaient programmées. On avait programmé cette question à quel moment pour le dépôt de projet de répartition des sièges au Parlement. La CENI avait donné la date critique, le 21 mars 2015. Mais cette opération n'a pas eu lieu à la date demandée, voulue et souhaitée par la CENI. Ça a connu un retard de 135 jours. Aujourd'hui, le Sénat vient d'adopter, examiner et adopter ce projet après l'avoir rejeté à son temps, avec un retard, parce qu'on attendait cela, le 5 avril 2015. Mais c'est un retard de plus de 130 jours. jours. Le président devait promulguer ça au plus tard, le 20 avril, selon la programmation de la CENI. Rien n'est fait. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? C'est un coup dur à l'organisation même des élections locales. Parce que nous parlons des élections, les débats aujourd'hui entre les deux honorables sénateurs, à ma gauche tout comme à ma droite, le débat se fourraille sur le problème parce que les uns et les autres n'ont pas à intégrer le problème de périodicité des élections. Quand il veut dire périodicité des élections, quand vous consultez la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 21, troisième paragraphe, alinéa 3 et 4, on parle de la volonté du peuple qui est exprimée par les élections honnêtes et qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel. Périodiquement. Et cette question de périodicité est aussi contenue dans notre Constitution. Article 70, en ce qui concerne l'élection du chef du président de la République, 5 ans, la périodicité est là. Article 103 de la Constitution de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'élection des députés, on a mandé 5 ans pour les gouverneurs, vice-gouverneurs, ainsi de suite. 5 ans. Donc la périodicité est là. Mais aujourd'hui, on vient d'adopter, examiner et adopter le projet de loi portant répartition des sièges. Pour quel type d'élection? Pour les élections locales, municipales et urbaines. Est-ce que nous sommes dans une période classique d'organisation des élections? Nous disons non. Parce qu'en 2006, nous n'avons pas organisé. En 2011, nous n'avons pas organisé ces élections et maintenant nous nous trouvons devant les difficultés de comprendre les élections. Parce qu'aujourd'hui, honorable Moulaïla vient de dire, parce qu'il y a, il y a urgence, on n'avait pas besoin de décision ordinaire, donc ça doit sortir du cadre classique. Donc les élections qu'on veut organiser aujourd'hui avec ce projet de loi qui vient d'être adopté, ce sont des élections atypiques qui ne suivent pas l'organisation classique des élections dans un contexte ou bien dans un environnement politique stable. Donc ici, nous devons nous mettre en tête, quand on doit organiser les élections non classiques, il faut tenir compte. Parce que quand on va répartir les sièges, où il y a, la loi va parler sur le nombre d'électeurs enrôlés, nombre de sièges à pourvoir, nombre de sièges à élire, nombre de sièges à coopter, par exemple, est-ce que nous avons arrêter le nombre d'électeurs enrôlés issus de quel fichier électoral? Parce que c'est la question. Nous avons un fichier électoral qui connaît des problèmes depuis 5 ans. Un fichier électoral non audité, non tamisé, où on n'a pas élagué les nombres de doublons et le décès, ainsi de suite, ça pose problème. Et aujourd'hui, on fait ce que nous allons appliquer cette loi qui vient de voter avec ce fichier électoral. Alors, et si nous allons nous poser la question sur les partitions de sièges, est-ce que ça fait partie du début de l'audit externe qui a été initié par l'Organisation internationale de la francophonie, ou bien honorable Jacques a parlé d'un électorat qui est vendu 32 millions d'électeurs, on est arrivé à 20 millions. Est-ce qu'on a stabilisé le fichier électoral?
Alors, Jérôme Bonceau, là, vous évoquez trois grandes questions. La première, trois grands éléments. Le premier, c'est le retard accumulé par rapport au calendrier électoral. Commençons par là. Ça va perturber la suite des élections.
Effectivement, vous savez, en matière de gouvernance électorale, il y a ce qu'on appelle la planification. La planification des opérations électorales qui doit tenir compte du moyen financier et des facteurs temps. La CENI a fait son travail le 12 février 2015. Il a mis le temps, mais il n'avait pas le moyen. Mais le temps a fui maintenant la CENI. Les moyens ne sont pas encore disponibilisés. Donc nous trouvons dans l'impasse électorale. Et que faire? C'est là où nous disons, il y a une situation difficile à s'en sortir, quel que soit le débat, quel que soit le texte de loi qu'on vient d'adopter, qui va être promulgué par le chef de l'État pour les élections locales. À quand allons-nous programmer ces élections locales?
Alors, est-ce que là, vous ne tombez pas dans ce que certains observateurs appellent le fétichisme des dates en ce qui concerne les élections en RDC?
Non, il n'y a pas fétichisme des dates, mon cher ami. Quand on planifie, quand on fait une planification, quand vous programmez une activité, vous avez programmé cette émission à 19h15. Mais s'il arrivait que vous allez déplacer vers 20h, les gens ne vont plus suivre le débat, dialogue entre Congolais, ça sera une autre émission. Donc, quand on programme une activité, quand on programme les opérations électorales, on devait être trop regardant pour qu'on puisse exécuter ce programme. Mais la CENI a programmé, la CENI n'avait pas de moyens. Or, la CENI devait, le politique devait disponibiliser à la CENI et les moyens et le faire voir pour qu'on puisse respecter le temps.
Alors, quand vous dites que nous allons, les élections qui seront organisées sont des élections atypiques, voulez-vous dire que par ce vote, le Sénat a enfoncé le couteau dans la plaie?
Le Sénat n'a pas enfoncé le couteau dans la plaie. Le Sénat a fait son travail de faire la loi, mais et maintenant, c'est aux politiques. Comment nous allons nous y prendre? Parce qu'on ne peut pas laisser le pays sans élection. On ne peut pas brûler toutes les étapes, parce que la difficulté qui est la nôtre, c'est de ramener la République démocratique du Congo sur une voie d'organisation normale des élections, qu'on puisse respecter la périodicité contenue et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et dans la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et dans la loi fondamentale qui est la Constitution de la République. À ce moment-là, nous allons nous mettre sur la même longueur d'onde pour qu'après chaque 5 ans, on organise tel type d'élection et tel type d'élection. Ce qui n'a pas été le cas pour les locales en 2006, tout comme en 2011.
Professeur Joly, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Président de l'ONU depuis Kisangani, je salue ce retour en force de nos sénateurs parce qu'ils ont fait la volonté du peuple et ils ont facilité la CENI pour remplir sa tâche d'ici octobre, tout en jetant la base du cas du gouvernement pour le financement des élections. Et comme l'opposition continue à rêver, elle va rester toujours avec les manœuvres et sa base pour distraire leurs candidats à ces élections.
Voilà, il salue le retour en force des sénateurs qui ont fait la volonté du peuple, comme disait le sénateur Moulaïla, mais il pense qu'au niveau de l'opposition, vous continuez à rêver.
Merci beaucoup. D'abord, je ne sais pas qui parle de retour en force. Retour en force dans quel domaine? Nous ne sommes pas dans un match de football. Nous sommes dans une affaire très sérieuse, c'est qu'on appelait, n'est-ce pas, la planification électorale, n'est-ce pas? Et les élections, c'est un moment clé dans la vie d'une nation qui ne se résout pas à des retours en force ou à des rêves de sénateurs ou de l'opposition. Donc je crois que c'est notre ami qui est dans le rêve et il doit bien se réveiller lui. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord aborder la question du point de vue de mon ami frère et collègue honorable Moulaïla, qui a parlé d'un vote insuffisant. C'est la première fois que j'attends cette qualification. Nous avons voté régulièrement. Il suffit de lire l'article 79 de notre règlement intérieur. Le Sénat a ce qu'on appelle la majorité de sièges et la majorité des votes.
Là, vous parlez de la première session extraordinaire.
Non, de la première session extraordinaire. Ouais. Nous avons la majorité des sièges, de 2/3, donc il faut avoir 72 sénateurs. Et la loi dit, notre règlement intérieur, lorsque cette majorité n'est pas obtenue lors de la première séance, lors de la séance subséquente, eh bien, on prend le nombre qui est là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est toujours passé. Donc, n'ayant pas 72, on a levé la séance. Et il y a une séance subséquente qui a été convoquée. Et on était à 62. 48 ont dit oui. 13 ont dit non. En plus de sens abstenu. Et 1 a dit non. Donc la loi n'a pas obtenu la majorité requise, soit 55 voix. Donc la loi a été rejetée.
Et donc il n'y avait pas un problème de quorum.
Ah non. D'ailleurs, le président a lu le discours de clôture. Et nous sommes embrassés. En bonne et due forme. Donc, la session extraordinaire de juillet août s'est régulièrement clôturée et le vote a été régulier. Donc, nous ne pouvions même pas aller en parité parce que la loi n'a pas été votée en termes
de différence.
Ouais. Donc, sur cette question-là, je voudrais ne plus revenir. Ce qui est important,
honorable, je vous donne la parole. Vous aurez la parole. Il y a un chrono devant vous et apaisez-vous, s'il vous plaît. Professeur Joly.
Alors, ce qui est important, je crois que ce sont les questions soulevées par le président de l'AETA. Nous avons voté une loi. Pour quelle finalité? Il faut que cette loi puisse intégrer l'ensemble du chemin critique de notre processus électoral. Aujourd'hui, les calendriers a explosé. Tous les cheminements prévus, y compris pour les élections provinciales. Où est-ce que nous en sommes avec la publication des listes de candidats, la liste définitive? Comment allons-nous organiser des élections combinées, les locales, les municipales, et les élections provinciales avec deux fichiers différents pour une même consultation. Qu'est-ce que nous allons faire en termes du temps que nous n'avons plus? Toutes ces questions, nous sommes au mois de d'août. C'est en octobre que nous allons avoir des élections, le vote.
Et donc il y a beaucoup d'interrogations.
Et il y a des questions. Voilà pourquoi, au-delà des questions spectaculaires, il y a des questions de fond sur
qui n'ont pas
la
trouvé leur
gouvernance électorale, sur la faisabilité de notre calendrier. Et là, c'est une responsabilité que la CENI a avec l'ensemble des acteurs politiques pour que nous puissions trouver les schémas au lieu de discuter sur une loi qui n'en est pas une.
Merci. Honorable Moulaïla, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasaï central. Je me demande si cette situation qui a prévalu au Sénat ne confirme-t-elle pas l'opinion selon laquelle le pouvoir exécutif est au-dessus des autres pouvoirs traditionnels. Est-ce, ne peut-on pas dire, au vu de ce vote, que non seulement le Sénat a subi une forte pression politique de la part du gouvernement, mais aussi et surtout que le Sénat a perdu son indépendance et sa crédibilité, car depuis que cette chambre haute existe, elle n'a jamais voté une loi dans une telle circonstance, pour ne pas parler de la session elle-même qui est entachée des irrégularités.
Honorable Moulaïla, qu'est-ce que vous lui répondez à cet auditeur?
Mais avant de répondre à cet auditeur, je reviendrai à un élément très important. Le président de l'AETA a présenté toutes les bonnes théories sur les organisations des élections. Je le remercie. Mais je voudrais donner une réponse à notre auditeur qui m'appelle de Kananga. En ce qui concerne la pression, je lui confirme qu'il n'y en a pas eu. C'est une prise de conscience des sénateurs et ces sénateurs qui ont eux-mêmes demandé la convocation de cette session extraordinaire.
La plus courte qui soit au monde.
La plus courte qui soit au monde, ce n'est pas ça le problème. Ce qui importe, c'est la résolution que cette session apporte aux problèmes nationaux, dont l'auditeur de tout à l'heure est bénéficiaire, puisqu'il tient pour la démocratie. On veut que les élections municipales, urbaines, je devrais dire aussi locales, puissent avoir un instrument juridique en termes de répartition des sièges. Quand le sénateur Ndjoli a parlé, il vous a parlé de la gouvernance. Cette gouvernance, qu'il connaît que cette gouvernance existe. Aujourd'hui, la CENI s'est réunie avec toutes les couches politiques, sociales et autres pour l'adoption ou pour la vulgarisation des différents textes. Et nous y sommes. Dans l'exécution, dans la planification de la mission de la CENI, il faut à la CENI la répartition. Ça ne peut pas se faire tel que nous sommes maintenant au micro et ça passe. Non, la bonne gouvernance, ça veut dire le respect, fonctionner en fonction des textes légaux.
Mais en fonction des textes, honorable Moulaïla, le sénateur Djoli et Jérôme Bonsoir ont souligné la question du fichier électoral qui est incohérent.
Il n'y a pas d'incohérence. C'est ce que j'avais dit et l'honorable Djoli va même me soutenir. Et il sait, la CENI présente des documents ou analyse ou présente des choses selon une technicité précise. Joli le sait. Le français que je parle ici, ce n'est pas un français juridique. Et il a été prouvé et confirmé que techniquement, les données qui sont venues de la CENI n'étaient pas comprises par les élus. Il a fallu plusieurs séances. Et je dirais même, il a fallu des séances de renforcement des capacités. Écoutez, il ne faut pas confondre les choses.
Et donc c'est un faux problème pour vous, la question du fichier électoral.
La question du fichier électoral, c'est un faux problème. Et à tout moment,
À tout moment, la CENI est disposée, sur base des différentes structures et des différents partenariats que la CENI est en train de signer, et c'est moi qui le dis, de revenir, de corriger, ou même d'amener les juristes qui, eux, nous, créent toujours des ennuis selon qu'ils ont une volonté individuelle, selon leur interprétation. Écoutez, monsieur, je voudrais terminer. Laissez-moi terminer.
Allez-y alors rapidement, parce que j'ai une question supplémentaire.
Posez la question alors.
Alors, honorable Moulaïla, il y a ce problème de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Après l'adoption de cette loi au Sénat, comment ça va se passer lorsqu'on devra enrôler les nouveaux majeurs?
Ce que vous devez savoir, il y a déjà une loi antérieure, comme l'honorable Njoli. Lui est dans ses enseignements et dans sa vie, il ne pratique que ça. Il vous dira quelle est cette loi qui avait réparti les sièges à travers la République. Aujourd'hui, quel que soit le nombre des électeurs, quel que soit l'effectif de la population, les données démographiques de la population, le Parlement, je veux parler de l'Assemblée nationale, aura 500 électeurs et 500 députés, le Sénat, 108 sénateurs. Vous comprenez? Si alors, à l'issue de l'enrôlement des nouveaux majeurs, les juristes, comme ce sont eux, par leur jeu de mots et la recherche de la défense des intérêts individuels, vont nous amener à de nouveaux sièges. Oh, monsieur, j'ai appris au Parlement, où je suis depuis plus de 10 ans, on a des lois portant modification, complétant, modifiant. Il y aura toujours une disposition qui va permettre à ce que l'intégration des nouveaux majeurs puisse Merci. Être prise en compte dans l'évolution du processus des éléments ou de l'arsenal juridique.
Et donc ça n'a aucun problème.
Ça ne pose aucun problème.
Merci, honorable.
Le Parlement est là et on va continuer à siéger.
Merci.
L'honorable Njoli qui est là sera toujours membre des différentes commissions.
Merci,
invité sur base de son expertise.
Merci, honorable Jérôme Bonsoya, pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo Nord Kivu.
Jeanne Odiane, à Butembo, province du Nord Kivu. Le projet de loi que le sénateur vient de voter est une simple formalité de la part des sénateurs car, à mon avis, ils ont voté sous pression politique. Est-ce que les sénateurs vont encore voter la loi sur la répartition des sièges pour la deuxième fois alors que toutes les couches sociales réclament l'enrôlement des nouveaux majeurs? S'il arrivait que l'enrôlement est lié après cette loi votée, que fera la CENI? Faut-il croire au slogan publiquement s'il y a l'enrôlement des nouveaux majeurs après cette loi votée par les sénateurs?
Jérôme Bonsoir.
Merci, cher ami John. On est d'accord avec vous. Du point de vue technique et organisationnel, ça, le problème technique se pose. Parce que quand même, au niveau de l'audit, initié par l'Organisation internationale de la francophonie, on a tenté d'auditer le fichier électoral, notre fichier électoral à nous. Et nous, on s'est posé la question de la technique. Si on auditait ça aujourd'hui, et que demain nous allons aux élections, et après demain, on va procéder à l'enrôlement de nouveaux majeur, selon la planification de la prévision de la CENI. Est-ce qu'il serait encore utile et nécessaire de faire encore un autre audit? Et le monsieur a raison. Parce que nous nous posons la question de savoir, la répartition des sièges tient compte du nombre des électeurs enrôlés, tient compte du nombre de sièges à pourvoir, tient compte du nombre de sièges à discuter et à copter. Mais si aujourd'hui, avec ces nouvelles données qu'on va nous présenter, la donne, comment peut-on venir à stabiliser les circonscriptions? Parce que nous avons retenu 189 circonscriptions électorales pour la députation provinciale qui est en vue. Tandis que pour l'élection locale, municipale et urbaine, on nous laissait entendre qu'au départ, il y avait 1433 circonscriptions électorales. Mais avec le décret signé par le Premier ministre, qui consiste à surseoir sur la création de nouvelles villes et de nouveaux de communes, est-ce qu'on va ramener les nombres de... Est-ce qu'on va revoir les nombres de circonscriptions à la baisse?
L'honorable Moulaïla a dit que ça ne poserait aucun problème.
C'est un casse-tête, ça pose un problème lors des élections de 2011. Nous étions
Honorable Moulaïla,
en 2011,
il ne vous a pas arrêté quand vous parliez.
En
2011, nous étions incapables de donner le résultat.
Non,
nous étions incapables de donner le résultat sur 189 circonscriptions. Le résultat qu'on a donné, c'était sur 182 circonscriptions. On était incapables de récolter les résultats électoraux pour les 189. Mais si nous allons nous trouver devant 1433 circonscriptions électorales, est-ce que nous avons la capacité managériale des opérations électorales avec notre machine électorale actuelle? Est-ce qu'on va s'en sortir? Il y aura l'organisation des élections locales, municipales et urbaines, par essai et erreur. Ça passe ou ça casse. C'est pourquoi nous disons, ensemble, nous devons nous humilier. Nous humilier du fait que nous devons voir comment nous pouvons parvenir à l'aide.
Honorable Moulaï, là,
comment nous pouvons,
c'est moi qui accorde la
nous
parole.
Pouvons parvenir
laissez M. Bonso parler.
Nous pouvons parvenir à reconstruire le consensus électoral. Parce qu'un consensus, on ne va pas s'en sortir. Les défis sont nombreux. Nous avons parlé des défis d'enrôlement, les défis d'organisation concomitante même de nos élections. Cher ami Alain, nous allons organiser les élections locales dans un environnement de découpage.
Alors,
où il y aura, s'il vous plaît, province traditionnelle 11, province non démembrée 4, province démembrée 22. Mais comment on va concevoir les logiciels pour la gestion du bureau de vote? C'est un problème.
Alors, bloquer
la machine électorale si on ne fait pas attention.
Vous avez énuméré des problèmes. L'honorable Moulaï a dit qu'il faut aller au dialogue parmi les solutions. Est-ce que c'est envisageable?
On peut y arriver, mais ce que j'ai dit à mon honorable Moulaï, c'est pour dire en politique, il y a l'organisation des élections établie sur deux options. L'option politique et technique. Lui est en train de privilégier l'option politique. En 2006 et en 2011, nous avons privilégié l'option politique et les élections étaient chaotiques. Et personne n'a endossé la responsabilité de la débâcle électorale. C'est pourquoi nous disons, honorable, c'est le moment est venu de concilier les deux options techniques et aux uns. Le dialogue, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas refuser le dialogue. Parce que nous disons que c'est du consensus naturel de la confiance de la population dans l'organisation des élections apaisées et de ces consensus qu'on peut arriver à établir un dialogue politique pour lever des grandes options pour comment parvenir à charcuter le calendrier électoral qui ne répond plus aux exigences ni à l'organisation même des élections. C'est de là que nous pouvons nous en sortir.
Alors, Jérôme Bonso, certains auditeurs diront que vous les effrayez. Y aura-t-il élection ou pas en RDC? Qu'est-ce qu'il faudrait comme solution?
Il y aura élection. C'est question maintenant d'accorder la priorité. À l'heure qu'il est, techniquement, il est possible d'organiser l'élection de députation provinciale pour mettre fin à la crise de légitimité des députés provinciaux. Qu'on va élire les sénateurs, le gouverneur et le vice-gouverneur.
En renvoyant les locales et les municipaux.
Techniquement, les locales, on ne peut même pas en parler à l'heure qu'il est. Nous sommes d'accord, on peut le reporter après 2016.
Merci.
C'est ça notre point de vue.
Professeur,
si on regarde l'organisation technique de ces élections.
Professeur Joly, il nous reste moins de 3 minutes. Il faut déjà conclure. Comment vous envisagez la suite du processus électoral? Quelle est la solution pour décanter la situation?
Merci beaucoup. Je crois que dès la publication du calendrier électoral le 12 février 2015, nous avons dit des caractères irréalistes, inconstitutionnels, hypothétiques, illusoires de ces calendriers.
Solution?
La solution, nous l'avons dit. Il faut se consacrer sur ce qui est possible. Nous avons déjà une loi sur la répartition des sièges pour les élections provinciales. Aujourd'hui, il y a déjà des candidats. Eh bien, allons aux élections provinciales. On parle du Sénat qui cherche les glissements. Les sénateurs demandent, attendent l'organisation des élections provinciales pour qu'il y ait de nouveaux sénateurs, de nouvelles assemblées provinciales et de nouveaux gouverneurs. La question des élections locales et municipales, c'est un monstre de Loch Ness dont personne ne maîtrise.
Merci.
Aujourd'hui, parler d'une loi sur la répartition des sièges des élections provinciales, plutôt locales, c'est une utopie.
Merci,
et
professeur.
Ça ne sert qu'à masquer les intérêts cachés.
Honorable Moulaï, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral?
La suite du processus, je suis très heureux. J'ai retenu un mot qui est revenu. Aidant l'intervention de l'honorable Njoli et dans l'intervention de mon voisin de gauche,
Jérôme Bonso,
la planification. Quand vous parlez du mot planification, il faut savoir vous comporter en planificateur. Dans la planification, vous avez l'horizon temporel, vous avez les contraintes, et vous avez tout ce qui peut intervenir pour que les objectifs à atteindre puisse être réalisé. Cela revient à dire ce qui est comme objectif supérieur, organisation des élections.
Si on veut organiser les élections, il faut épuiser la série des contraintes. Et si on épuise la série des contraintes,
merci,
il faut qu'on organise les élections. Merci.
Merci. Jérôme Bonso, un mot pour terminer.
J'invite les uns et les autres à s'inscrire dans la politique de planification du respect des périodicités des élections pour que nous arrivions à organiser des élections classiques et non atypiques.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 de Kinshasa. Au revoir.